Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un homme fit un grand souper et invita de nombreux convives. Mes très chers frères, en ce deuxième dimanche après la Pentecôte, nous sommes dans l'octave de la fête Dieu, la fête du corps du Christ, la fête du Saint-Sacrement. L'Évangile a un rapport direct avec le mystère de la Sainte Eucharistie. Non pas tant le mystère de Sainte Eucharistie, non pas tant considéré en elle-même que dans ceux auxquels elle est destinée. Les textes de la messe de ce jour nous enseignent sur les moyens que Dieu a préparés pour pourvoir à notre salut. Alors nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, plusieurs choses à considérer. Premièrement, dans un premier point, nous livrerons à certaines considérations sur le salut de Dieu. Nous verrons qu'il est une grâce, paradoxalement une grâce nécessaire à la nature humaine. Et nous verrons aussi ce qui peut causer notre damnation. Et nous verrons que l'Évangile contient une doctrine sur trois obstacles au salut. Donc le premier point sera consacré à la doctrine du salut. Le deuxième point, nous verrons comment être sauvé. C'est une chose que de savoir que Dieu veut nous sauver, c'en est une autre que de savoir comment il va nous sauver, il veut nous sauver. Nous verrons quel est le fondement de l'œuvre du salut qui a été réalisée en nous, et cela nous amènera à expliquer brièvement l'oraison collecte d'aujourd'hui. Et en troisième point, nous verrons comment se vérifie l'œuvre du salut en nous, et cela nous amènera à quelques considérations pratiques, très brèves et très praticables. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Dans l'Évangile, selon saint Luc, il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens cette parabole. Un homme fit un grand souper et invita de nombreux convives. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux invités de venir parce que tout était prêt. Il y a plusieurs choses à savoir quand on parle du salut que Dieu a préparé pour nous. C'est une chose très commune dans le christianisme que de savoir que notre religion est la religion par laquelle Dieu nous sauve. Dans d'autres religions, par exemple dans l'islam, Dieu ne sauve pas. Dieu donne une loi pour que l'homme vive heureux sur la terre en attendant la fin du monde. Alors, ce n'est pas que ça s'oppose au christianisme, parce qu'il y a effectivement une loi qui a été donnée par Dieu, de telle sorte que nous vivions une vie simple et heureuse sur la terre en attendant le retour du Christ. Mais tout ceci n'est que la deuxième partie, le deuxième aspect, un autre aspect du salut, de l'œuvre principale de Dieu qui est le salut. Donc dans le christianisme, rien n'est plus commun que de parler du salut. La nécessité du salut, le fait que Dieu a pourvu à notre salut, que Dieu réalise l'œuvre du salut, etc. Ce sont des lieux communs, c'est ça le fond de notre religion. Maintenant, livrons-nous un instant à une sorte de révision, un petit peu de cette notion de salut. Tout d'abord, nous pouvons dire que pour nous, tels que nous sommes actuellement, c'est-à-dire de l'autre côté de la chute, il se trouve que le salut est une nécessité pour nous à cause de la chute. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, même si nous voulions simplement vivre heureux et paisibles sous le regard de Dieu, sans nous poser de questions, nous ne le pourrions pas. Pourquoi? Et parce que par cause de la chute, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Et si nous sommes tentés de dire, eh bien, c'est notre premier père qui a péché et moi, je n'ai rien à voir là-dedans, il suffit de se poser la question, suis-je attiré par le ciel, suis-je attiré par les maximes de l'Évangile, suis-je attiré par les commandements de Dieu, suis-je conscient que les commandements de Dieu garantissent à l'homme le bonheur sur la terre? Je vous renvoie au quatrième commandement, qui est l'honneur dû aux parents et auquel est corrélée la promesse d'une vie heureuse sur la terre. Est-ce que je veux vivre comme cela? Est-ce que je vais vivre heureusement sur la terre? Eh bien, il se trouve que sous un certain rapport, alors personne ne va dire non dans l'absolu, mais sous un certain rapport, la façon dont nous nous comportons est en désaccord avec l'affirmation théorique qui pourrait être la nôtre à cette question. Voulez-vous vivre de façon heureuse sur la Terre? Oui, bien sûr, qui ne le voudrait pas? Mais voulez-vous vous donner les moyens de vivre heureux sur la Terre? Quels sont-ils ces moyens? Ah, maintenant que je les connais, je n'ai pas tellement envie. Donc vous n'avez pas envie d'être vivre heureux sur la Terre, puisque d'une certaine manière, vous refusez les moyens de vivre heureux. Alors, évidemment, tous les hommes se disent qu'en refusant les moyens proposés par Dieu, ils en trouveront bien d'autres pour vivre heureux sur la Terre. Or, il se trouve qu'il est impossible de vivre de façon heureuse ici-bas si ce n'est pas en mettant en pratique les commandements de Dieu. Regardez un petit peu comment vivent les païens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des moments de bonheur dans leur vie ou des moments de joie, mais il se trouve que tout ceci est extrêmement bref, extrêmement douloureux, et le prix à payer pour cela est aussi très grand. Quand on est jeune, on fait la fête, on boit, on fait les fous, on se livre à toutes sortes de choses de façon effrénée, et il se trouve que quand on est vieux, eh bien on paye l'addition, c'est-à-dire qu'on est malade, on est délabré, et pour un moment de bonheur qu'on a pu avoir dans notre vie, eh bien nous passons tout le reste de notre vie, si tant est que nous arrivions encore à vivre, eh bien à payer les pots cassés, si l'on peut dire. Donc, pour nous, pour l'homme déchu, le salut n'est pas un luxe. Ce n'est pas une promesse que Dieu adresse à ceux qui veulent mieux vivre. Si nous voulons avoir visage humain, si nous voulons être des êtres humains et non pas des animaux humains, alors le salut est une nécessité. Nous devons saisir la main de ce Dieu qui nous tend la sienne, si j'ose dire. Le salut, donc, est une nécessité pour nous à cause de la chute, parce que, pour le dire d'une façon grossière, nous, livrés à nous-mêmes, nous faisons absolument n'importe quoi, de telle sorte que nous avons besoin de cette œuvre de Dieu qui nous mette là où nous devons être mis, c'est-à-dire sur nos deux pieds, et non pas à quatre pattes par terre, si on peut utiliser cette expression. Donc, une première considération, c'est que le salut est pour nous une nécessité à cause de la chute. Néanmoins, une fois qu'on a admis cela, et que l'on est chrétien, qu'on a été baptisé, qu'on vit dans la foi, il se trouve qu'on peut se livrer à des considérations plus hautes. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on en vient à se dire, est-ce que l'homme en état d'innocence, on aurait pu dire, il n'a pas besoin d'être sauvé. Alors, c'est là où le salut est une œuvre plus fondamentale de Dieu qui se manifeste en tant que salut pour nous, les hommes déchus. Mais notre premier père, notre première mère, Adam et Ève, dans le paradis terrestre, en imaginant qu'ils n'aient jamais déchu, qu'ils ne soient jamais tombés, qu'ils aient refusé la proposition du serpent, est-ce qu'on peut dire que Dieu les aurait laisser vivre paisiblement comme cela, d'une vie immortelle, sans aucune considération supérieure? Bien sûr que non, tous les théologiens, et alors il y a plusieurs écoles, mais tous les théologiens s'accordent pour dire que ce que nous appelons aujourd'hui le salut, qui culmine dans la vision béatifique, après notre mort, eh bien il y avait l'équivalent, si l'on peut dire, le drame en moins, avant la chute. C'est-à-dire que nos premiers parents étaient destinés, après avoir vécu une vie immortelle sur terre, à monter plus haut et à jouir de la vision béatifique de Dieu une fois que leur temps sur terre serait écoulé. Car sur la terre, qu'on soit en état de chute, en état de déchéance ou en état d'innocence, on n'est pas fait pour être éternellement sur la terre. Nous sommes faits pour vivre éternellement dans le ciel, pour vivre éternellement. Mais la culmination et le lieu propre de l'éternité, de la vie éternelle, c'est la vision béatifique, c'est l'union avec Dieu. Donc, voyez, considéré en lui-même, indépendamment de la chute, de l'événement historique de la chute, il se trouve que le salut, qui ne s'appelait donc pas le salut avant la chute, mais qui s'appelait, comment s'appelait-il ? Il s'appelait, le salut s'appelait la réalisation de la nature humaine, ou la réalisation plus précisément de la raison d'être de l'homme. Le salut, c'est bien sûr ce qui nous arrache, l'œuvre de Dieu qui nous arrache aux griffes de notre ancien maître naturel qui est le diable, mais le salut considéré en lui-même indépendamment de la chute, c'est l'accomplissement de l'œuvre que Dieu s'est proposée lorsqu'il a créé. Alors, c'est une question extrêmement complexe, nous la réduisons au maximum pour avancer, mais gardons ceci à l'esprit. Le salut, ce n'est pas simplement le fait de passer des ténèbres à la lumière, c'est le fait d'être fixé dans la lumière, et la lumière qui est la source de la lumière qui est Dieu. Donc il est impossible d'imaginer que Dieu ait créé pour ne pas ramener à lui sa création. C'est une chose impossible. Je sais bien qu'il y a des gens qui s'imaginent que Dieu aurait pu créer l'homme sans fin, surnaturel, il aurait pu créer le monde sans but, etc. Ce sont des imbéciles, ces gens-là, ce sont des blasphémateurs. Il est impossible de penser que si un homme ne fait jamais rien que dans un but, et si un homme fait une action sans but, on dit que ou bien c'est un insensé, c'est un malade mental ou c'est un idiot. A fortiori, Dieu. Dieu a fait toute chose et Dieu a fait toute chose pour un but. D'ailleurs, c'est écrit, Dieu a tout fait pour un but. Donc, vous voyez, mes très chers frères, cessons de prêter l'oreille à cette théologie pervertie qui dit que Dieu aurait pu. Dieu n'a pas créé l'homme autrement que pour le ramener à lui et se l'unir dans cette vision béatifique qui est la participation du non-Dieu à la nature divine, comme dit Saint-Pierre. Arrêtons de couper les cheveux en quatre et de se poser des questions qui n'existent pas. Dieu a fait toute chose pour un but. Dieu a créé l'homme pour que l'homme jouisse de Dieu pour l'éternité au sein de la vision béatifique dans le Verbe. Donc, voyez, et un troisième point, une troisième considération est que le salut est une nécessité logique de la nature humaine. Alors vous allez dire, attention, la grâce est gratuite, elle est tellement gratuite qu'en réalité, il ne faudrait jamais la faire rentrer en ligne de compte quand on étudie la nature humaine, etc. Alors, attendez, attendez. Le bon Dieu a créé l'homme en état de grâce, en état d'innocence, c'est-à-dire dans l'état normal et naturel de la nature humaine, de telle sorte que, ayant perdu l'état d'innocence, nous sommes tombés en deçà de nous-mêmes, en deçà de la nature humaine. L'homme déchu, ce n'est pas simplement l'homme naturel tel que Dieu aurait pu le créer. L'homme déchu est, pour dire ça très rapidement, c'est un monstre, il est déformé, il est transformé en quelque chose, il ne change pas de nature, mais il est transformé en quelque chose de monstrueux. Le salut, la grâce, est donc quelque chose qui est purement gratuit de la part de Dieu, mais c'est quelque chose pour laquelle nous sommes faits. Donc le salut est une nécessité pour la nature humaine. L'homme qui, par impossible, ne voudrait pas être sauvé, serait un homme qui ne raisonne pas d'une façon normale. Le salut est donc une nécessité logique pour la nature humaine. On ne peut y être indifférent. Nul ne peut être indifférent au salut. Alors, il se trouve que bien des gens ne s'intéressent pas au salut proposé par Dieu, mais leur nature humaine est ainsi faite, et c'est une grâce, et c'est une belle chose que de voir que même dans l'athée, la nature humaine est ainsi faite, qu'il cherche un but à sa vie. L'athée le plus horrible, Voltaire, l'homme le plus infect, un des hommes les plus infects que la Terre ait jamais porté, ne vivait pas sans but. Son but, c'était de devenir ami des grands, c'était de bien boire, de bien manger, de profiter de la vie. Son but était, si je veux dire paradoxalement, son but était de nuire à l'Église, de nuire à la religion. Son but, le but auquel il a consacré sa vie, c'était de détruire et de salir le Christ. Eh bien, indépendamment de la méchanceté de ce but, cet homme infect, cet homme mauvais, cet homme laid, cet homme moralement laid, cet homme correspondait à un aspect minimal de la nature humaine, dans le sens où sa vie n'était pas sans but, sa vie avait un but. Évidemment, c'était un faux but, un mauvais but. Mais il n'était pas sans but. Il se trouve donc, mes très chers frères, que le salut que Dieu nous propose, c'est-à-dire pose devant nous, nous donne, a pour but de donner, non pas un sens à notre vie, mais de révéler quel est le sens de notre vie. L'athée, le mécréant qui donne un sens à sa vie, correspond en quelque sorte d'une façon générale à la volonté de Dieu pour lui, c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons sans but, mais évidemment il se détourne de la seule façon possible de réaliser la raison d'être de la vie humaine. C'est pour cela qu'il ne faut jamais utiliser cette expression « trouver un sens à vie », donner un sens à sa vie. Notre vie a un sens, dans la mesure où nous commençons à exister. Eh bien, dans la mesure où nous naissons, où nous commençons à exister, il se trouve que notre vie a un sens. Ce sens, nous le subodorons, et c'est pour ça que nous cherchons un sens à notre vie, et ce sens nous est révélé par l'Église, par la religion, par la parole de Dieu. Ce sens, c'est vivre à la gloire de Dieu, afin de pouvoir être unis à ce Dieu à la gloire duquel nous aurons vécu durant cette vie. Il y aurait bien des choses à développer, mais nous allons un peu plus loin. Une autre chose à savoir à propos de la doctrine générale du salut de Dieu, c'est que le salut n'est pas quelque chose qui serait extérieur à nous. Le salut, ce n'est pas, alors, ce n'est pas comme un pion qui serait sur l'échiquier et que le joueur ferait avancer jusque de l'autre côté. Comme par exemple quand on joue aux dames, on a des pions qui sont d'un côté et le but du jeu, c'est de faire avancer les pions jusqu'à l'autre côté de l'échiquier. Alors, ce n'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas totalement vrai non plus, et ça serait même totalement faux si nous pensions que ce n'est que cela. C'est-à-dire que le but, nous ne sommes pas que des pions, que des pièces dans un jeu que Dieu se serait fait pour lui-même. Dieu n'est pas comme un petit garçon qui a des petits personnages et dont le but, c'est d'inventer une histoire avec ces petits personnages. Il bouge les petits personnages et il les fait vivre, et une fois qu'il a réalisé l'histoire qu'il voulait faire, bien, il range son jeu, il a terminé de jouer. Ce n'est pas totalement faux, notez bien. Ce n'est pas totalement faux. Souvenez-vous que ce mot de très intelligent de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit que nous sommes comme un ballon dans les mains d'un petit garçon. Notre vie est comme un jouet entre les mains de Dieu. Sous un certain rapport, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas le prendre trop littéralement. Nous sommes des jouets, mais en même temps, nous sommes des jouets qui sommes animés. Nous sommes des jouets de Dieu faits à l'image de Dieu, en possession d'un corps et d'une âme, une âme qui est en possession de ses puissances. Donc nous sommes beaucoup plus qu'un jouet, même un jouet mécanique très perfectionné. Nous sommes des êtres faits à l'image de Dieu. Donc la nature humaine est faite pour participer, pour collaborer au salut que Dieu se propose pour elle. C'est-à-dire, la nature humaine est ainsi faite qu'elle doit collaborer à la réalisation de sa propre nature. Mutatis mutandis, je dirais que le cheval qui est entraîné pour gagner la course fera gagner un prix, un beau prix, une médaille, de l'argent, que sais-je, à son propriétaire. Mais il faut que le cheval soit intéressé à la course. Le but de la course, c'est pas que le propriétaire mette son cheval sur ses épaules ou sur une carriole, que sais-je, et qu'il l'emmène d'un point A au point B de la carrière sur lequel le cheval doit courir. Le cheval doit être intéressé à la course, si l'on peut dire, c'est-à-dire que le cheval doit comprendre qu'il relève de la glorification de sa nature équestre, que de participer à cette course et de se montrer le meilleur. C'est pour cela que les chevaux, qui sont des animaux très nobles, il faut les encourager, il faut les dresser, les dompter, etc. Et même, il faut, je ne connais pas très bien la chose, mais il faut leur parler, il faut les motiver en quelque sorte. Alors, imaginez que nous sommes entre le jouet et l'animal, si l'on peut dire, dans le sens où nous sommes mus par Dieu en tant que jouet, nous sommes intéressés, comme l'animal, au fait de gagner cette course, parce que d'une certaine manière, cet animal sait que, si j'ose dire, il ne va pas partir à l'abattoir s'il gagne la course, et puis probablement il va être choyé, il va être admiré, et tout animal qu'il est, un animal qui a gagné la course, sait qu'on l'adule, qu'on le flatte, qu'on le vante, ne serait-ce que parce qu'on ne l'enferme pas dans une écurie en étant désagréable avec lui, etc. Donc, mais nous sommes plus que cela. Nous sommes faits à l'image de Dieu, donc ça signifie que nous avons une âme immortelle, contrairement à l'animal, contrairement au jouet, bien entendu, qui n'a pas d'âme. Nous avons une âme immortelle. Cette âme a trois puissances fondamentales que sont, nous en avons parlé la dernière fois, l'intelligence, la mémoire, la volonté. C'est par l'investissement de notre intelligence, de notre mémoire, de notre volonté, qui donc investit notre âme, qui donc entraîne son corps avec elle, puisque le corps est l'instrument de l'âme, que nous réaliserons le but que Dieu s'est proposé en créant l'homme, puisque en créant l'homme, il nous a intéressés au but qui est celui de notre nature humaine, puisqu'il nous a donné l'intelligence pour comprendre, la mémoire pour nous souvenir de ce que Dieu a dit, et la volonté aussi pour la mettre en pratique. Donc, voyez, mes très chers frères, ceci nous amène à considérer que nous avons été créés pour Dieu. Ayant été créés pour Dieu, le salut se réalise par la coïncidence de notre volonté, spécialement, avec celle de Dieu qui est amour. Notre intelligence, coïncidence de notre intelligence aussi et de notre mémoire, mais sous un certain rapport, on peut avoir dans l'intelligence et dans la mémoire les choses que nous enseigne Dieu par l'Église, mais si on ne les a pas dans la volonté, cela ne sert pas à grand-chose. Un professeur d'université peut très bien vous expliquer quelle est la foi des chrétiens. Et il peut très bien, même s'il est totalement mécréant, et même s'il est d'une autre religion, ne pas se tromper tellement quand il expose. Il peut nous dire, les chrétiens croient en ceci, cela, etc. Et voilà, bon, voilà. Est-ce qu'il maîtrise son sujet? Oui, parce qu'il est intelligent. Est-ce qu'il est capable de passer toute sa vie à expliquer la chose? Oui, parce qu'il a de la mémoire. Est-ce qu'il veut avoir la religion des chrétiens? Ah, certainement pas. Parce que c'est un mécréant ou c'est quelqu'un d'une autre religion. Il est intéressé, il se souvient de ce que dit l'Église, mais en aucune façon il est intéressé à pratiquer. Donc voyez, c'est pour cela qu'il faut que notre volonté coïncide avec la volonté de Dieu. Il n'est pas totalement impossible que notre intelligence, jusqu'à un certain point, n'exagérons pas non plus, hein, mais coïncide avec la connaissance de la doctrine. Il n'est pas impossible que nous soyons tellement saturés de cette connaissance qu'elle structure notre mémoire. Encore faut-il que, donc ça c'est ce qui fait les chrétiens, disons le chrétien de base, si l'on peut dire, encore faut-il que nous voulions ce que Dieu veut. Donc il faut que nous comprenions que le salut, c'est-à-dire la réalisation de la raison d'être de l'homme, ne se réalise que dans la mesure où notre volonté ne correspond avec celle de Dieu, Dieu qui est amour. Nous l'avons vu la dernière fois. Dieu est amour. Pourquoi disons-nous Dieu est amour? Déjà parce que c'est l'Écriture qui le dit, et ensuite parce que nous devons comprendre que Dieu n'est pas une sorte de tyran qui nous aurait créés pour faire de nous des esclaves afin de réaliser un but, en quelque sorte, sans lequel, sans notre présence, but que notre Dieu ne nous a pas créés comme quelqu'un aurait acheté des esclaves pour construire une maison. Personne ne peut se construire une maison, enfin je pense à Pharaon qui construirait par exemple des villes ou des palais, personne ne peut construire des palais, etc., sans avoir des grandes masses d'esclaves. Donc il faut bien qu'il y ait des esclaves, et donc de telle sorte que les esclaves ayant été employés, eh bien les palais, les maisons, etc., surgissent du sol. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de nous en réalité. Dieu a voulu créer, alors ce n'est pas la raison de la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a créé, etc. Ce sont des questions très complexes. Dieu nous a créés, et Dieu a créé l'homme, comme le chef-d'œuvre de la création, afin que l'homme participe de la nature de Dieu par cette chose qui n'est pas difficile pour l'homme à comprendre, qui s'appelle l'amour. N'importe qui sait ce que signifie l'amour, même un mécréant fini sait ce que c'est l'amour. Dieu est amour, donc évidemment il y a plein de formes d'amour qui sont mauvaises et qui sont déviées, qui sortent du cadre de l'amour de Dieu, mais c'est une des choses les plus faciles à comprendre lorsqu'on dit Dieu est amour. Si on disait Dieu est intelligence, Dieu est immensité, Dieu est infinitude, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Dieu est amour. Il nous semble que nous comprenons. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour comprendre. Mais pour comprendre, il faut adhérer par la volonté à la volonté de ce Dieu qui est amour et qui nous a créés pour lui. Voilà, en quelque sorte, de façon très condensée et avec beaucoup d'autres choses que nous avons passées sous silence, la doctrine du salut. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est la réalisation de la nature humaine, la réalisation de la raison d'être de l'homme. C'est le salut, c'est le fait que l'homme parvient à la finalité pour laquelle Dieu l'a créé. Il n'y a donc, vous avez compris mes très chers frères, il n'y a de damnation que par la volonté propre. Comment peut-on se damner? Si nous n'avions pas de volonté propre, il serait impossible de se damner. Donc vous allez dire, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné une volonté? Attendez, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Nous devons comprendre que le mauvais usage de notre volonté s'appelle la volonté propre. Qu'est-ce que la volonté propre? Alors En un seul mot, disons, si on peut dire, la volonté propre, c'est de vouloir quelque chose indépendamment de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a donné dix commandements, posé devant nous 10 commandements. Si nous voulons différemment que la façon dont ces 10 commandements conditionnent notre volonté, alors c'est la volonté propre. Si quelqu'un entend le premier commandement et veut aimer Dieu, mais il ne sait pas comment, il a une toute petite volonté, il a une volonté très faible, il aime encore beaucoup, mais quand même il veut aimer Dieu, sa volonté propre est en quelque sorte mise en échec par cette volonté d'aimer Dieu. si l'homme est convoite, et il sait qu'il ne faut pas convoiter, puisque c'est le commandement qui lui dit ça, le neuvième commandement, le sixième et neuvième commandement, l'homme veut convoiter, il ne veut pas convoiter. Alors, il a toutes sortes, il sent toutes sortes de choses qui le poussent à convoiter, mais il veut s'en tenir à la loi de Dieu. Eh bien, sa volonté propre est mise en échec avec l'aide de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne lui obéit pas. Donc, on ne sera pas sauvé parce qu'on n'est plus tenté. On ne sera pas sauvé parce que on aura, d'une certaine manière, transformé la nature de telle sorte que nous n'ayons plus de volonté propre. Ce n'est pas, on est sauvé parce qu'on met la volonté propre en échec. Donc, il se trouve que, par conséquent, on se damne dans la mesure où on suit sa volonté propre. La volonté propre, l'usage de la volonté propre, alors la volonté propre, qu'est-ce que c'est? La volonté propre, ce n'est pas quelque chose dont nous pourrions nous amputer et puis que nous pourrions être ensuite débarrassés de ce problème. La volonté propre, c'est le mauvais usage de la volonté. Donc vous voyez, il ne faut surtout pas détruire la volonté, parce que sinon nous ne pourrions plus vouloir le bien. Quelqu'un qui aurait détruit sa volonté est incapable peut-être de vouloir le mal, mais aussi incapable de vouloir le bien. Et Dieu merci, la volonté ne peut pas se détruire, puisque c'est une des choses qui fait partie de Il est plus facile de détruire l'intelligence et la mémoire que la volonté. Parce que même un être idiot, un être qui est privé de l'intelligence et de la mémoire, a quand même une volonté, une certaine volonté. Et si même on sait même que certaines personnes qui sont dans le coma, si on leur met par exemple quelque chose dans la main, ou on veut leur donner à manger, etc., et quelque chose dans leur âme ne veut pas, elles opposent une certaine résistance, et c'est encore une manifestation de la volonté. Donc la volonté, c'est pas le problème de l'homme, c'est pas la volonté, c'est la volonté propre. La volonté propre, c'est le mauvais usage de la volonté. La volonté propre, l'usage de la volonté propre, c'est l'usurpation du rôle de Dieu dans la direction de notre vie. La volonté propre se manifeste, et disons, elle s'actualise, elle est là comme une tentation, mais elle se manifeste, elle s'actualise lorsque positivement nous faisons ce que Dieu nous défend de faire, lorsque nous allons là où Dieu ne veut pas que nous allions, etc. Il s'agit donc d'une usurpation du rôle de Dieu dans la direction de notre vie. Dieu, mes très chers frères, celui qui méprise le salut se croit plus sage que Dieu. Dieu veut quelque chose pour nous. C'est difficile, c'est pénible, ça provoque le dégoût du vieil homme, etc. Certes, mais Dieu le veut pour nous. Nous disons, je veux autre chose. Donc ça veut dire, ou bien que Dieu veut des choses mauvaises pour nous, et si Dieu voulait quelque chose de mauvais pour nous, il ne correspondrait plus à la définition de Dieu, parce que Dieu, c'est un être infiniment parfait, infiniment bon, qui ne peut pas vouloir le mal, ce n'est pas un être malicieux. Donc, ou bien il veut quelque chose de mauvais pour nous, il est plein de malice envers nous, et il ne correspond plus à la définition de Dieu, ou bien il n'est pas intelligent, et c'est nous qui sommes plus intelligents. Mais comme la définition de Dieu inclut une intelligence parfaite, si Dieu veut des choses pour nous que nous pensons plus intelligents de ne pas vouloir, alors ça veut dire que nous sommes plus intelligents que Dieu, alors ça veut dire ou bien que nous sommes Dieu, ou bien que nous nous trompons. Et comme l'expérience nous montre que par un certain côté, nous ne sommes pas Dieu, ça veut dire que nous nous trompons. La persévérance dans l'erreur, dans une telle erreur, dans le fait de se tromper lui-même, de se tromper soi-même, conduit à la damnation. Qu'est-ce que la damnation? La damnation, c'est l'antisalut. La damnation, c'est la fixation dans la non-réalisation de la raison d'être de l'homme. L'homme a été créé pour être uni à Dieu. Lorsque l'homme refuse d'être uni à Dieu, eh bien, il se trouve que parfois Dieu lui refuse son refus, et donc il change son cœur, et des fois Dieu lui accorde son refus, pour diverses raisons qui ne nous intéressent pas ici. Parfois Dieu lui accorde son refus, parce qu'après tout, l'homme a une volonté, et il choisit ce qu'il veut, il lui accorde son refus. Le problème, c'est que l'homme apparaît alors, en définitive, comme son plus grand ennemi, puisqu'il se fixe lui-même, il se met dans une situation où il sera fixé dans la non-réalisation de sa raison d'être. Quelle folie, quelle sottise, mes très chers frères, quelle sottise que la damnation. La damnation s'effectue donc, mes très chers frères, s'effectue par la médiation par la médiation de causes qui, pour parler comme Pascal, nous distrait de l'unique nécessaire. L'unique nécessaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous devons faire, ce que nous devons croire, vivre, etc., mais mettre en pratique surtout, afin de pouvoir être sauvés. Si quelque chose vient nous distraire de cet unique nécessaire, qui est donc l'instrument de notre salut, et donc en réalité le contenu même de notre salut, puisque dans l'absolu l'unique nécessaire c'est le Christ lui-même, c'est Dieu lui-même, si quelque chose vient, dis-je, nous distraire de l'unique nécessaire, c'est une médiation, c'est une chose, c'est un médiateur de damnation. Or, dans cet évangile, le Seigneur nous enseigne sur trois médiateurs, si l'on peut dire, de damnation. Dans une doctrine très condensée, il y a trois obstacles au salut. Le premier obstacle, et ce sont les trois excuses que les invités trouvent pour ne pas se rendre au festin auquel ils ont été conviés. Le premier lui dit, j'ai acheté une terre et il est indispensable que j'aille la voir. Villam emi, et necesse abeo exire, et videre illam. Villam emi. À strictement parler, ça signifie j'ai acheté une ferme. La villa en latin, c'est la ferme. Villam emi. Alors, chez les anciens commentateurs, qui sont toujours notre référence, bien entendu, nos maîtres, nos pères, on nous dit que, d'une certaine manière, ce premier obstacle au salut, c'est l'oisiveté, c'est l'amour du plaisir, c'est l'orgueil des richesses. Cet homme, qui vit quelque part, a acheté une ferme ou une maison de campagne, si l'on peut dire, villa c'est aussi la maison de campagne, il a acheté une ferme, il a acheté une maison de campagne, mettons ici que c'est une maison de campagne, il a acheté une maison de campagne et il veut aller la voir. Il trouve donc qu'il est plus important de s'occuper de sa maison secondaire, de sa résidence secondaire, que de venir au repas des noces éternelles de l'agneau. Nous voyons donc qu'un premier obstacle au salut, c'est l'orgueil des richesses, c'est l'amour des richesses, c'est l'amour des plaisirs, c'est l'oisiveté. Les biens, nous disent les auteurs, les biens, quand ils sont des obstacles au salut, ne peuvent plus être considérés comme des biens. C'est-à-dire qu'il est tout à fait licite d'avoir une maison à la campagne. La seule chose, si la passion pour cette maison à la campagne fait que je me détourne du salut, je me détourne de cette invitation au festin des noces de l'agneau, alors ce n'est plus un bien, même si ce n'est pas un mal en soi, ce n'est pas une chose illicite, ce n'est plus un bien parce qu'elle me détourne du salut. Alors ça, c'est bien. Alors tout le monde va se dire, oui, tous ces riches qui se détournent du salut, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille plutôt que le riche d'entrer dans le ciel, etc. Oui, c'est bien. Attention, mes très chers frères, c'est bien, mais adaptons aussi la chose à notre époque. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de riches parmi nous qui, donc, pour se sentir visés par ce premier obstacle au salut. Il se trouve que nous pouvons, à notre époque, ajouter un autre sens à tout cela. Évidemment, j'ai acheté une maison de campagne signifie j'ai une occupation sur la terre qui m'intéresse plus que le salut. Mais, littéralement parlant, Villam emi, j'ai acheté une ferme. Nous pourrions le prendre littéralement dans le contexte du XXIe siècle. Mes très chers frères, j'ai acheté une ferme peut très bien rentrer dans des considérations, désigner des considérations de l'homme post-moderne qui voudrait qu'il y aurait un souci exagéré de sa santé, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui, à notre époque, désirent revenir à la Terre, mais pour vivre d'une façon plus saine. D'ailleurs, à notre époque, surtout, enfin, tout au long du XXe siècle, on a trouvé cette tendance. Alors, ça se comprend d'une certaine manière, c'est tout à fait légitime. Il est légitime d'acheter une villa, il est légitime d'acheter donc une ferme, d'acheter une maison à la campagne, ce n'est pas ça le problème. C'est tout à fait légitime. Mais il se trouve qu'il y a des chrétiens, car il s'agit aussi de chrétiens, nous parlons de chrétiens, qui font de ce mieux vivre, de ce vivre sainement, une obsession. Il y a des gens qui sont obsédés par le bio, de telle sorte que le bio devient véritablement une religion pour eux. Alors ils sont les premiers à se moquer des juifs et du système de l'Ancien Testament et donc du système rabbinique du tri, de manger cachère, etc. Mais eux font encore pire, si l'on peut dire, enfin même si ce n'est pas un mal en soi, mais ils font encore pire, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'on n'est pas chrétien si on ne mange pas bio. Où avez-vous jamais lu ça? Et d'ailleurs, les lois de l'Ancien Testament ne sont pas des lois relatives au bio, c'est la loi de Moïse, c'est la loi de l'Ancien Testament. On n'a pas à chercher d'autres raisons que le fait que c'est Dieu qui l'a révélé à Moïse pour l'Ancien Testament. Donc, il se trouve qu'il y a des chrétiens qui sont obnubilés par le bio et qui, s'ils le pouvaient, achèteraient bien une ferme pour aller vivre à la campagne, pour mieux vivre, pour respirer le bon air pur, etc. Alors, vous allez dire, ils vont nous dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Il vaut mieux être chrétien et se sanctifier dans la pollution, mangeant des choses qui polluent notre corps, qui polluent notre santé, etc. Je ne dis pas que c'est une marque de christianisme que de respirer au pot d'échappement des voitures, bien entendu. Je dis que il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que les riches, il n'y a que les oisifs qui sont concernés par cet achat de ces villas Emmi. J'ai acheté une ferme. Nous pourrions très bien vouloir acheter une ferme, mes très chers frères, dans un but qui nous détournerait de la religion. Notre religion pourrait très bien devenir le mieux vivre. Le mieux vivre, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont absolument pas du tout chrétiens et qui se donnent les moyens d'ailleurs. Dieu merci, beaucoup de chrétiens voudraient faire ça et sont retardés, sont enfreinés par toutes sortes de considérations. Plus vous êtes mécréant, vous êtes un gauchiste, etc. Vous vendez tout, vous allez à la campagne et vous vivez dans une yourte, vous vivez très bien, vous faites griller vos saucisses de soja sur des barbecues de bois naturel, etc., de charbon, etc. Ces choses-là, ces gens-là ont l'air très bien, ont l'air très proches de la nature. Quand vous leur parlez du christianisme, ils le vomissent, ils le détestent. Leur religion, c'est le bien vivre, c'est le mieux vivre, c'est le vivre sainement. Eh bien, mes très chers frères, ces gens-là, alors je ne parle pas de ces pauvres gauchistes qui, de toute façon, rentrent dans la catégorie des mécréants, je parle des chrétiens qui voudraient faire comme eux. Ces gens-là pourraient très bien se trouver dans le cas du premier invité qui a mis en colère le père de famille à la fin de l'histoire. Le premier obstacle du salut peut être pour un chrétien le désir de mieux vivre qui devient une religion et une fin en soi. Il y a des gens qui sont obsédés par l'idée que la mort doive les surprendre en bonne santé, mourir en bonne santé. Eh bien, mes très chers frères, c'est de l'idolâtrie. Je ne dis pas qu'il faut se pourrir la santé en mangeant n'importe quoi, etc. Ce n'est pas du tout cela que je dis, vous l'avez compris. Je dis que si on fait du mieux vivre, si on fait de sa santé quelque chose qui subordonne à soi à la religion, c'est de l'idolâtrie, parce qu'il est écrit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît, le reste étant le manger et le vêtir, et le logement. Mes très chers frères, il m'est très pénible de dire ce que nous disons, parce qu'on peut dire, il y a tellement peu de gens déjà qui sont conscients de ces choses-là, alors les peu qui sont conscients, vous avez. Ceux qui en sont conscients, justement, je ne veux pas qu'ils tombent d'une erreur dans une autre erreur. J'ai acheté une ferme. Voilà le premier obstacle au salut. Non pas la ferme en elle-même, que Dieu nous garde, ce n'est pas ça le problème, mais c'est le fait d'absolutiser ce mode de vie. Il se trouve que si nous devons envisager le retour, qu'on appelle le retour à la terre, nous devons le comprendre cela en termes déjà en termes raisonnables, rationnels. C'est une chose très pénible. Si on va à la campagne pour vivre bien et puis respirer des fleurs et puis cueillir ses fruits et cueillir des petits légumes chaque jour, etc., on va s'apercevoir que en fait c'est pas comme ça que la campagne se la terre est une marâtre, comme disaient les anciens. Il est très difficile d'extraire de la terre les fruits et les légumes dont nous avons besoin. Si nous élevons des animaux, ils tombent malades, ils sont attaqués par toutes sortes de choses, etc. Et puis ce sont des choses très complexes. Donc la vie à la campagne est extrêmement difficile. Et donc, si nous nous imaginons que la religion du mieux vivre va faire que nous allons acheter une ferme et que nous allons y vivre comme des vrais catholiques, nous sommes surtout des naïfs, mes très chers frères. Si nous imaginons que nous allons à la campagne et que nous allons manger du bio parce que ça vient de la terre, nous apercevons que tout est très pollué, etc., et que nous allons être très déçus. Si nous poursuivons une utopie, mes très chers frères, l'utopie d'une vie saine, etc., nous allons nous heurter de toute façon à des difficultés matérielles et réelles. Alors vous allez dire, tous ces gauchistes qui font. Tous les gauchistes supportent la difficulté, mes très chers frères, c'est là où est le secret. Nous ne sommes pas des gauchistes non gauchistes. Les gauchistes font le retour à la campagne. Pourquoi? Alors, c'est très difficile. Eux, ils ont très conscience de la pénibilité de la chose, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent des vies morales tout à fait déréglées. Ils fument de la drogue et ils font toutes sortes de choses illicites. En tout cas, pour un chrétien. Je ne parle pas forcément du point de vue de la loi, mais du point de vue de la loi chrétienne. Ils ont des compensations énormes. Ils vivent d'une vie qui est quand même relativement plus saine, sous un certain rapport, mais ils compensent la dureté de cette vie par toutes sortes de choses qui, d'une certaine manière, leur tiennent lieu de religion, tiennent lieu de grâce, tiennent lieu de supplément d'âme. Le chrétien doit aspirer à vivre comme vivaient nos pères, les Hébreux. Bien entendu, ce n'est pas ça la question. Mais il doit vivre cette vie, aspirer à vivre cette vie pour mener une vie réellement qui soit d'un bout à l'autre de sa journée et de sa vie, une vie de pénitence, une vie de labeur pénible, une vie de renoncement. Et ce chrétien-là, dans la mesure où il aura acheté une ferme justement, dans ce but-là, il s'apercevra que la bénédiction de Dieu est bien plus large, et bien plus grande, et bien plus profonde qu'il peut l'imaginer. Mais si nous allons à la campagne uniquement pour ces choses que nous ne considérons même pas comme des bénédictions de Dieu, mais comme des dus dus à l'homme, nous allons nous heurter à des problèmes très graves, et nous allons peut-être même perdre la foi, dans le sens où nous allons dire, eh bien finalement, la nature du bon Dieu, j'y ai été, et puis le bon Dieu m'a pas aidé. Vous n'y avez pas été pour le bon Dieu, vous y avez été pour vous. Vous avez dit au bon Dieu venu vous chercher, là où vous étiez, dans votre ferme, en train de dire, le bon Dieu qui vous dit, je vous ai invité à ce festin céleste, mortifiez-vous, vivez dans la pénitence, et vous n'y aurez pas, vous direz, eh bien disons, si c'est ça la vie avec le bon Dieu, au grand air, etc., je préfère encore retourner en ville. Vous n'aurez même pas les compensations que les gauchistes ont à la ville. Faisons très attention, mes très chers frères. Les obstacles au salut sont bien sûr, jonchent le chemin des mécréants, bien entendu, des mauvais chrétiens, bien entendu, mais aussi le nôtre. Alors vous allez dire, oui, le nôtre, des chrétiens qui essayent d'être des bons chrétiens, d'être des vrais chrétiens, avec l'aide de Dieu. Il y a un deuxième obstacle au salut. Donc que chacun, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a un deuxième obstacle au salut, nous dit notre Seigneur. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les éprouver. Je t'en prie, excuse-moi. 5 paires de bœufs, alors sans entrer dans les détails, les commentateurs disent qu'il s'agit ici de l'obstacle au salut qui consiste dans la curiosité des sens et de l'esprit. Il s'agit de l'obstacle que peut constituer le travail et les affaires. Les affaires, c'est-à-dire le, comment dire aujourd'hui, le business, mais enfin, il ne faut pas utiliser d'anglicisme. Les affaires, comme on dit, les affaires. C'est un autre obstacle au salut. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Tout ce qui contribue à la curiosité des sens et de l'esprit, mes très chers frères, nous réduit à un état proche de l'animalité, alors même que nous avons l'impression d'être très intellectuels et très intelligents. L'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs. Car il est écrit, l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu, ça veut dire qu'il connaît peut-être d'autres choses, mais pas les choses de Dieu. Les 5 paires de bœufs, pour faire les choses simples, sont les 5 sens réduits à leur fonction animale, c'est-à-dire quand ils sont livrés à eux-mêmes. Faire des études par curiosité, comme on voit toutes sortes de gens, des gens en vue, des gens qui font des vidéos, qui vous disent, voilà, j'ai fait des études, j'ai fait un an de ci, j'ai fait de la linguistique, j'ai fait du droit, j'ai fait de la chimie, j'ai fait de la, des études de je ne sais pas trop quoi, etc. Tout m'intéresse, c'est ça, oui. C'est de la curiosité. Alors vous allez dire, mais justement, c'est pour se cultiver, etc. Oui, je comprends qu'on puisse faire ça. Je comprends, évidemment, le moderne est tellement désordonné qu'on comprend. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que ceux qui le font ne sont pas catholiques. Faire des études, par curiosité, mes très chers frères, c'est, dans le fond, perdre son temps, c'est céder au désir désordonné de connaître, c'est la curiosité. C'est ce que les anciens appelaient la curiosité, d'ailleurs les anciens, et nous aussi, c'est la curiosité. Il y aurait bien des choses à dire à propos des études, mais nous allons plus loin parce que ce n'est peut-être pas le moment de le dire, et puis nous sortirons peut-être du sujet. Mais ça serait très intéressant de les dire. Faire des études par curiosité, c'est une chose mauvaise. Il faut que les études que les garçons entreprennent soit des études qui servent directement à les mettre dans un devoir d'État où ils puissent se sanctifier. Et cela nous amène à une autre considération sur ce même deuxième obstacle au salut, qui consiste dans un emploi, nous disent les auteurs, dans quelque emploi, dans un emploi qui, quel qu'innocent qu'il soit, nous rend incapable de penser à Dieu à cause de cet emploi. À cause de cela, il faut le fuir. Alors, évidemment, c'est là où il faut prendre conseil. Il ne faut pas se dire « Ah, je n'arrive pas à penser à Dieu dans mon emploi, donc changer d'emploi ». Non, attendez, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut considérer que si nous avons un emploi où il nous est, en quelque sorte, presque structurellement impossible d'être catholique et de vivre selon la foi catholique, et je ne parle pas simplement à la petite foi de notre petite foi individuelle, mais selon les commandements de Dieu, selon la civilité catholique, alors il se trouve que nous devons quitter cet emploi. Par exemple, imaginez, vous auriez une dame qui se convertirait et qui serait, sous-officier de gendarmerie ou dans la police ou dans l'armée, qui serait, général. Elle se convertit parce que Dieu, la grâce de Dieu convertit n'importe qui, peut convertir possiblement n'importe qui. Elle se convertit, elle comprend, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit être une bonne chrétienne, une bonne générale, une bonne colonelle, comme là où elle doit être? Non, elle doit changer de métier. Pourquoi? Parce que c'est une abomination pour la femme que de porter les armes de l'homme. Elle est dans un travail qui est incompatible avec sa profession de christianisme. Alors vous allez dire, ce sont des cas très rares. Je l'espère. Une dame, par exemple, prenons un exemple facile, après on prendra l'exemple avec les hommes. Une dame qui, par exemple, travaille dans un... pour diverses raisons, aujourd'hui, les dames, malheureusement, parfois elles travaillent, etc. Donc, où il lui serait impossible de ne pas porter les pantalons. Vous allez dire, mais c'est son travail, elle peut pas se mettre avec une robe, etc. Eh bien, il faut qu'elle change de travail. J'allais dire, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle travaille en usine ou je ne sais pas, il faut voir les règlements des usines, s'il y en a encore en France. Mettons qu'elle soit, je prends un exemple ridicule, par exemple, elle est professeure de gymnastique et donc il faut qu'elle soit tout le temps en survêtement. Eh bien, elle doit d'abord changer de métier parce qu'il était impossible d'être autrement qu'en pantalon, et elle doit encore changer ce métier aussi, parce que ce n'est pas une occupation pour une femme que d'être professeur de gymnastique, ou de faire de la gymnastique, ou autre chose semblable. Pour les hommes, évidemment, c'est un peu blasphème, c'est presque caricatural. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des cas réels. Pour les hommes, c'est la même chose. Mutatis mutandis, évidemment, car un homme n'est pas une femme, faut-il le rappeler, j'espère que ce n'est pas un délit de le dire. Bon, enfin, en tout cas, un homme, a priori, ce n'est pas une femme. Donc, ce n'est pas la même chose, mais le principe reste le même. Imaginons que les choses deviennent plus subtiles, parce que l'homme est le chef. Il se trouve que certains hommes peuvent faire certains métiers licites en maintenant leur pensée, leur tournée vers Dieu. Mais d'autres hommes, d'autres chrétiens, des hommes et des chrétiens ici, dans le même métier, sont tellement entraînés par les conditions du métier, je n'entrerai pas dans les détails, parce qu'il s'agit de choses sérieuses, si on peut dire, que il vaudrait mieux pour eux qu'ils changeassent de métier plutôt que de s'efforcer en vain de se sanctifier. Et c'est pour ça qu'ils doivent prendre conseil des clercs, et non pas tellement forcément de leurs frères. Alors ils peuvent prendre conseil de leurs frères aussi, mais un frère pourrait dire « pour moi ça marche très bien ». Oui, mais pour moi ça ne marche pas, alors que faire? Alors il faut prendre conseil d'une autorité supérieure, d'un point de vue supérieur. Vous voyez, il vaut mieux changer de métier, même si c'est un métier licite, dans la mesure où il nous est impossible de nous y sanctifier. Il y a, toujours dans le même ordre d'idées, il y a des affaires, on peut être commerçant quand on est chrétien, mais il y a des affaires qui sont parfois tellement impliquées avec l'esprit du monde que sans être criminel en elle-même, on peut difficilement s'y sanctifier. Imaginez que... c'est difficile parce que ce sont des cas réels et beaucoup plus fréquents. Alors cette fois-ci, beaucoup plus fréquents qu'on peut l'imaginer. Mais mettons, je resterai dans les grandes lignes. Mettons que nous ayons un métier tout à fait licite, un métier d'artisanat par exemple, qui soit en quelque sorte à la pointe des inventions modernes. Par exemple, bon, prenons un exemple, hein, il faut donner un exemple parce que sinon ça ne va pas être clair. Mettons que vous êtes directeur d'une boîte de smartphones et de téléphonie mobile. En soi, il n'est pas illicite de vendre des téléphones, de vendre des moyens de communication. Vous pourriez, le christianisme ne vous demande pas de vendre des boîtes de conserve avec un fil à tendre entre les deux pour... bon, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Maintenant, il se trouve que néanmoins, ces choses-là contribuent tellement à la perte des âmes, à la destruction de la sociabilité et à la ruine des familles la plupart du temps, que, alors même que le fait de vendre un moyen de communication n'est pas en soi mauvais, quand il y a une gamine qui vient dans votre magasin et qui achète un smartphone et que vous savez très bien que cela ne servira qu'à la perte de son âme, est-ce que vous pouvez vous sanctifier dans ce métier, sachant que, alors vous allez dire, oui, si je vendais des couteaux de cuisine et qu'il y a un malade qui vient en acheter pour les assassiner, c'est pas pour ça que je devrais changer de métier. L'exemple est bon, mais il ne s'applique pas. Évidemment, vous vendez des choses pour les restaurants, pour les cuisines, etc. Pour les ménagères, les chefs, que sais-je. Il y a des assortiments de cuisine, tout le monde sait qu'un couteau de cuisine peut faire une arme de crime tout à fait convenable. Il se trouve que, néanmoins, c'est quand la destination de ce couteau est détournée qu'elle devient une arme. Vous ne vendez pas un couteau pour assassiner votre prochain, que je sache. Même si vous étiez armurier, vous ne vendez pas des fusils de chasse, même des couteaux, etc. pour le gibier, vous ne les vendez pas pour commettre des meurtres. Mais lorsque vous vendez un smartphone, vous savez très bien que cette chose-là ne va pas être utilisée uniquement pour communiquer en cas de nécessité avec un prochain utile et non. Vous savez très bien qu'il y a l'Internet dessus. Vous savez très bien que cela va court-circuiter l'autorité parentale. Vous savez très bien que cela va donner lieu à toutes sortes de conversations illicites, mauvaises, etc. Vous le savez très bien. Ce n'est pas un emploi dérivé, dévié de cette chose-là. Si l'on peut dire, utiliser un smartphone uniquement comme un téléphone, Et quand on en a vraiment besoin, si l'on peut dire, c'est un emploi dévié de cette chose. L'ordiphone, en soi, est quelque chose qui contribue grandement à la perte des âmes. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un usage légitime, encore qu'il faudrait qu'il soit vraiment très réglementé. Je dis que quand on est un vendeur d'ordiphone et qu'on veut se sanctifier, à mon avis, je ne suis pas le seul à le penser, on ne peut pas se sanctifier. Il y a encore d'autres métiers qui sont des métiers en soi relativement indifférents, mais qui sont tellement en lien avec le monde, et spécialement le monde moderne, que l'on ne peut pas s'y sanctifier réellement. Parce que, à moins d'être un mauvais commerçant, et donc se condamner à perdre son commerce, on ne peut pas se sanctifier. Si vous dites à toutes les personnes qui vont acheter ces choses-là, oui, mais vous savez, ça fait perdre la foi, ça fait perdre, ça fait... Les gens vont dire, bon, ben attendez, qu'est-ce que c'est? Vous vendez votre truc ou pas? On ne peut pas faire de la mauvaise... Un commerçant ne peut pas faire de mauvaise publicité pour ce qu'il vend. Donc, si il ne peut pas se sanctifier grâce à la vente qu'il fait, au moins indirectement, il se trouve que il devrait changer de métier. C'est un obstacle, mes très chers frères, c'est un obstacle au salut. Vous voyez combien ces choses-là sont importantes. Et puis, il y a un troisième obstacle au salut, qui est manifesté par ces mots, un autre, dit « je me suis marié et par conséquent, je ne puis venir ». Alors évidemment, tout comme le fait d'acheter une ferme ou le fait d'acheter 5 paires de bœufs, le fait de se marier n'est pas illicite en soi. Mais c'est un symbole. C'est un symbole pour l'enseignement d'aujourd'hui. « Uxorem duxi, je me suis marié ». Les auteurs nous disent qu'il s'agit en généralité de tout ce qui a trait à la concupiscence de la chair. L'impudicité, toutes sortes de choses, mais aussi, bien entendu, ça c'est évident, mais qui est un obstacle direct au salut, bien entendu, mais aussi, d'une façon plus générale, et plus tout attachement exagéré, enfin, tout attachement idolâtrique On peut être très attaché à quelqu'un sans que ça soit un attachement idolâtrique. Un homme peut être très attaché à sa femme, très attaché à ses enfants, et sans que ça soit idolâtrique. Il y a un attachement idolâtrique à ce troisième point, cette troisième catégorie d'obstacles au salut. Et pour dire les choses d'une façon plus ciblée, on peut avoir un attachement au sang qui est une idolâtrie, et donc qui est en quelque sorte qui n'est pas béni par Dieu. On peut être idolâtrer sa race, on peut idolâtrer sa nation, etc., choses auxquelles nous devons être légitimement attachés. On ne doit pas faire n'importe quoi dans ces domaines-là, mais il y a une façon d'idolâtrer ces choses qui fait que, dans la mesure où ces choses sont respectées, disons, tout le reste est surrogatoire. C'est-à-dire que dans la mesure où la personne est du bon sang, etc., alors qu'elle soit chrétienne ou pas, ça importe peu. C'est faux. C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. On peut prendre encore un autre exemple par rapport ce troisième point. C'est quand on est attaché immodérément à sa famille, mais à sa famille impie. La famille élargie au sens élargi. La famille impie à laquelle on sacrifie l'éducation religieuse de ses enfants. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, mais je m'entends très bien avec mes parents, je m'entends très bien avec mes cousins, etc. » Bon, ce sont des parfums mécréants, ce sont des néo-catholiques, ce qui n'est pas forcément la même chose, bien entendu, hein, je ne dis pas les néo-catholiques sont tous des mécréants, loin de là, mais disons que ce sont des néo-catholiques, ils n'ont pas la même religion, ce sont des traditionnalistes, ce sont des gens, ce sont des ralliés, que sais-je. On s'entend bien, donc le problème, c'est que vous êtes en train de sacrifier à votre attachement à votre sang, vous sacrifiez l'éducation religieuse de vos enfants. Il vous est impossible de faire de vos enfants des vrais chrétiens dans la mesure où vous êtes attaché à la fréquentation des païens. Vous voyez, souvent, quand on est à la campagne, on dit, alors on mène une vie saine, mais pour l'amour de Dieu, etc., j'ai compris le premier point, bon, j'espère bien, mais donc il y a toutes sortes de bons paysans qui sont alors ce parfait mécréant, mais ce sont des gens de la terre, etc. Ah ben, le problème, c'est que, alors, c'est pas que ce sont des gens de la terre, mais ce sont des mécréants. Et spécialement à la campagne, la mécréance est extrêmement corrosive. Parce que justement, si l'on peut dire, l'homme animal se manifeste encore plus. Donc voyez, mes très chers frères, il faut savoir de quel camp on est. Ou bien on est un invité qui veut aller au souper du père de famille, ou bien on a une bonne raison. Aucun de ces invités n'a dit « Voyez-vous, j'ai commis un crime, je suis en prison. Voyez-vous, je n'aime pas les mets préparés par le père de famille. Voyez-vous, je ne suis plus ami du père de famille. » Acheter une ferme, acheter une paire de bœufs, cinq paires de bœufs et se marier, ce sont les choses les plus légitimes que l'on puisse faire dans le monde. Et pourtant, le père de famille a dit, car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Mes très chers frères, voilà ce qui conditionne notre salut. Voilà les conditions de notre salut. Ne pas se laisser aller à sa volonté propre, spécialement dans les choses légitimes. Maintenant, il se trouve qu'il y a encore positivement bien des choses qui sont liées au salut. Cela nous amène à notre deuxième point. Comment être sauvé? Nous avons vu comment ne pas être sauvé, comment se damner avec les choses les plus légitimes du monde. Maintenant, comment être sauvé? Vous vous souvenez que dans l'oraison de dimanche dernier, il était dit « Dieu était appelé la force de ceux qui espèrent en lui ». Eh bien, dans l'introïte de la messe d'aujourd'hui, deuxième dimanche, après la Pentecôte, il est dit « Diligamte Domine Virtus Mea »« Je vous aime, Seigneur, qui êtes ma force ». Dieu est notre force et nous devons aimer cette force. Le but de cette force, comme nous l'avons dit la dernière fois, ce n'est pas de nous faire faire des choses qui nous plaisent et de nous faire mener notre vie indépendamment de Dieu. Sinon, Dieu ne serait qu'un valet, ne serait qu'un génie qui sort de la lampe une fois qu'on la frotte. Le but de Dieu en tant que force qui se communique à notre organisme spirituel, c'est-à-dire notre âme, c'est de nous ramener à lui. La force de Dieu, qui est Dieu communiqué à nous, a pour but de nous ramener et de nous faire vivre sous la houlette de notre bon pasteur et du gardien de nos âmes. Dieu est notre force contre notre concupiscence. La concupiscence est en nous la puissance de damnation. C'est cette force centrifuge qui fait que nous avons besoin d'une force contraire, au moins contraire, pour la stopper, pour l'arrêter et pour la faire revenir en arrière. Lorsque vous tirez avec un fusil et que la balle part dans l'air, qu'est-ce qui pourra l'arrêter? Rien, en réalité, elle est trop petite, rien ne peut l'arrêter. Imaginez que la volonté propre, c'est une balle de fusil qui part en sens inverse de là où vous êtes. C'est-à-dire qu'elle est, elle sait le plus, si vous tirez devant vous, la balle, à chaque milliseconde, s'éloigne énormément de vous. Vous, vous êtes Dieu, la balle, c'est l'homme. Dieu en tant que force, cette force, Dieu en tant que force, est une force qui n'existe peut-être pas dans le monde actuel, enfin dans le monde d'ici-bas, mais ça serait une force, ça serait quelqu'un qui serait capable de courir aussi vite que la balle, de se saisir de la balle, et non seulement de l'arrêter, mais de lui imprimer un mouvement contraire. Cette force n'existe pas ici-bas. Quiconque voudrait courir après un boulet de canon, tirer, risquerait fort bien de s'épuiser, évidemment, mais même si aujourd'hui on a des missiles guidés, etc., même si la seule chose qu'on pourrait faire, comme on voit la défense aérienne, etc., la seule chose qu'on peut faire, c'est faire exploser la chose en vol. Vous voyez, il y a un mortier qui est lancé, il y a un missile qui vient qui le fait exploser. Il ne le renvoie pas à l'expéditeur. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la chose qui vole est animée d'une très grande énergie, de telle sorte que si quelqu'un s'emparait de cette chose, mais cette chose, par la force d'inertie qui est la sienne, lui déchirerait les mains. Dieu, en tant que force, est la seule force au monde qui n'est autre que la force même de Dieu, qui est capable d'arrêter l'homme dans sa trajectoire centrifuge, et de lui imprimer une force contraire qui le fasse revenir vers Dieu. Cette force contraire qui fait revenir l'homme animé de sa force centrifuge vers Dieu s'appelle la charité. Dieu est charité. Dieu est force. Dieu est notre force. Et nous qui sommes emportés, bien souvent malgré nous, par ce mouvement kinétique, si je peux être un peu pédant, de centrifuge de la volonté propre, de l'amour propre, de la concupiscence, nous devons aimer Dieu, qui est cette force, la seule force au monde qui peut nous faire revenir sur nos pas. Dieu est la force de la conversion. Aimer Dieu, en tant que cette force, en tant que notre force, c'est l'aimer plus que nous-mêmes. Nous disions que si nous voulons, si le missile antimissile veut rattraper le missile qui a été lancé, le missile ennemi qui a été lancé, il doit au moins aller aussi vite que lui. Mais en réalité, il doit aller plus vite que lui, afin de pouvoir aller devant lui, se retourner contre lui et le frapper. C'est d'actualité, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Dieu, si Dieu doit être notre force pour arrêter le mouvement centrifuge de notre volonté propre, Dieu doit être considéré, Dieu doit être aimé plus que nous nous aimons nous-mêmes. C'est la seule façon de pouvoir, en quelque sorte, arriver à arrêter notre concupiscence. Aimer Dieu, mes très chers frères, nous amène à être haïs du monde. C'est pour cela que Saint Jean nous dit au début de l'Épître, si le monde, ne vous étonnez pas mes bien-aimés, si le monde vous hait. Être haïs du monde, attention, ce n'est pas faire des choses, afficher telle ou telle position qui ont été inventées, mises au point par des mécréants, de parfaits mécréants, et puis passer pour un super catholique parce qu'on va en prison à cause de la profession de ces idées-là. Non, c'est pas du tout ça, être haïs par le monde. Ça, c'est faire partie du spectacle. Être haï du monde, c'est être dégagé du courant centrifuge. Lorsque vous y avez une foule, vous savez, c'est très courant cette expression qu'on prend, il y a une foule, les gens, tout le monde va dans le même sens. Mais tout d'un coup, vous retournez, vous allez dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bousculer les gens vont vous bousculer. Les gens vont crier contre eux, vont dire, regardez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans le mauvais sens. Être haï du monde, on ne peut l'être, mes très chers frères, que lorsqu'on est véritablement inscrit dans le mouvement centripète, cette fois-ci, qui nous fait regagner le centre, et qu'on ne soit pas dans un faux mouvement centripète. Dans l'oraison d'aujourd'hui, l'Église nous fait dire ceci à l'Église. C'est une oraison magnifique, mais nous n'avons pas le temps de la commenter en entier. Sancti nominis tui domine, etc. Faites, Seigneur, que nous soyons toujours animés de la crainte et de l'amour de votre saint nom, car jamais vous ne privez de votre assistance ceux que vous avez solidement établis dans votre amour. C'est une oraison qui a la particularité de ne rien demander, mais d'exposer. Enfin, elle demande quelque chose, bien sûr, mais elle se contente d'exposer un état de fait. Faites, Seigneur, c'est la seule chose que nous demandez. Donnez-nous, faites, Seigneur, que nous ayons à la fois la crainte et l'amour de votre saint nom. Parce que ceux qui craignent et qui aiment votre saint nom, enracinés ainsi dans cet amour, sont toujours munis de votre assistance et de votre gouvernance. Dominé, c'est notre maître. Nous nous adressons au Seigneur en tant que Dominé, Dominus, notre maître, notre Seigneur. Dominé, notre maître et rédempteur, nous lui demandons, que nous ayons la crainte, toujours la crainte et l'amour de son nom. Car la crainte et l'amour de son nom vont de pair. Si l'on ne faisait que craindre Dieu, nous tomberions dans le désespoir. Si l'on ne faisait qu'aimer Dieu, nous tomberions bien souvent dans la familiarité et la témérité. Il nous faut donc craindre et aimer en même temps l'amour de Dieu, le bon Dieu, le Seigneur, de telle sorte que, eh bien, mes très chers frères, nous puissions... c'est parce que, grâce à ce préalable, la crainte et l'amour du Saint-Nom de Dieu, parce que jamais l'assistance de Dieu ne fait défaut à ceux qui sont solidement enracinés dans son amour. La crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il ne peut y avoir d'amour de Dieu que lorsqu'il y a une saine et une sainte crainte filiale de Dieu. La crainte filiale de Dieu, je vous le rappelle, ce n'est pas la crainte des châtiments, ça c'est une crainte qui est bonne, mais minimale, et qui peut malheureusement être compatible avec le péché. On peut ne pas pécher à cause du châtiment, mais ne pas pécher, être capable de pécher s'il n'y avait pas l'interdiction, c'est en fait, ça montre que en fait, nous sommes pécheurs dans notre cœur. En revanche, la crainte filiale fait que nous nous abstenons de péché pour ne pas contrister le Saint-Esprit, pour ne pas faire de la peine à notre Père Céleste, pour ne pas nous montrer ingrats envers notre divin Sauveur. Mes très chers frères, le divin Sauveur nous donne son salut dans la mesure où il nous dirige. Gubernationné, numquam toi gubernationné destituis. Vous ne destituez jamais, vous ne privez jamais de votre gouvernance ceux qui sont enracinés dans le fondement de votre amour. Mes très chers frères, nous ne pouvons être sauvés que dans la mesure où c'est notre existence tout entière qui est gouvernée par Dieu. Or, il s'agit d'être gouverné par Dieu et non pas par la volonté propre. Nous avons, je vous renvoie à la première partie de ce sermon, il faut être gouverné par Dieu, non par la volonté propre. Dieu doit être la règle, la loi de Dieu doit être la règle qui dirige et ordonne notre vie. Si notre vie n'est pas ordonnée et dirigée par les commandements de Dieu, les commandements de l'Église et les préceptes de la tradition, il se trouve que c'est en vain que nous cherchons à être sauvés puisque nous ne faisons que poursuivre notre volonté propre. Quand bien même notre volonté propre serait la défense de l'Église, l'illustration et la défense de la religion, que sais-je, c'est notre volonté propre. L'Église ne nous a rien demandé, c'est notre volonté propre. Voyez, mes très chers frères. C'est pour cela que dans le graduel, il est dit au Seigneur, au sein de ma détresse, je crie vers vous, je crie vers le Seigneur et il m'exauce. Seigneur, délivrez mon âme de la lèvre qui ment et de la langue trompeuse. La lèvre qui ment et la langue trompeuse, qu'est-ce que c'est? Ce sont les raisons de notre concupiscence. C'est tout ce qui nous fait réfléchir, indépendamment de Dieu, contre sa loi ou en instrumentalisant sa loi. Nous l'aimons, mes très chers frères, et il nous exauce. Au sein de ma détresse, je crie vers le Seigneur et il m'exauce. Pourquoi? Parce que je suis enraciné dans son amour. Si nous ne sommes pas exaucés, mes très chers frères, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Et n'aimer pas Dieu, c'est s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est la plus grande des folies, la plus grande des sottises, mes très chers frères. Parce que là, cela ne mène à rien. Rien de constructif, cela ne mène à rien sinon à la tristesse, au malheur éternel et à la déception et en réalité à la misère, dès ici-bas. La langue trompeuse, mes très chers frères, encore une fois, c'est tout ce que notre vieil homme fait pour être écouté, quand bien même notre vieil homme se changerait en une personne de très apologiste et très intéressée par la religion. Mes très chers frères, nous avons compris, il n'y a qu'une seule façon D'être sauvé, c'est d'être gouverné par Dieu, c'est de ne pas faire sa volonté propre, mais de s'en tenir à nos divers devoirs d'État qui nous ont été imposés par Dieu. Et dans l'Épître, il est dit, mes très chers frères, c'est notre troisième et dernier point, nous avons connu l'amour de Dieu à ceci qu'il a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons également donner notre vie pour nos frères. C'est une chose que de savoir ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de se damner. C'est une autre chose que de savoir qu'il faut suivre la volonté de Dieu et être guidé par lui en tant que notre force contre la concupiscence pour pouvoir être sauvé. Et puis, il nous manque une dernière chose, c'est de savoir comment se comporter concrètement. Comment se comporter concrètement, mes très chers frères, c'est une chose très simple, mais très difficile. Nous devons également, puisque nous avons été aimés d'un tel amour par Dieu, nous devons également donner notre vie pour nos frères. La charité pour Dieu s'actue, comme disent les théologiens, c'est-à-dire se manifeste, se réalise, se manifeste qu'elle est réelle, si vous voulez. La charité pour Dieu s'actue par l'amour fraternel. Et cet amour fraternel, c'est pas un amour en parole, c'est pas un amour qui consiste à laisser des pouces bleus sous les vidéos des autres, ça c'est pas l'amour fraternel, ça c'est la solidarité des mondains. La charité pour Dieu se manifestant par la charité fraternelle se manifeste par des actes concrets faits pour l'amour de Dieu envers des frères dans la nécessité. C'est-à-dire c'est la générosité, c'est l'aumône donnée aux pauvres, aux frères pauvres, c'est le soutien mutuel, se soutenir, techniquement, ça va de donner un bon conseil au fait de prêter un outil et d'aller aider l'autre sur son terrain. C'est d'une façon morale pardonner les injures, pardonner les fautes, pardonner les indélicatesses, ne pas en tenir rigueur, ne pas laisser l'amertume se monter dans son cœur, ne pas laisser les antipathies naturelles devenir des haines. Ce n'est pas évident quand quelqu'un nous semble pas intelligent et pourtant que c'est notre frère, quand quelqu'un nous semble détestable et pourtant que c'est notre frère, en réalité il est détestable simplement parce que sa tête ne nous revient pas et que son caractère est incompatible avec le nôtre, même si du point de vue de la nature, nous n'avons aucun atome crochu comme on dit, eh bien néanmoins, il nous faut exercer la charité envers lui en nous forçant très réellement. Parce que sinon, nous allons tomber dans le mépris. Le mépris induit la haine induit toutes sortes de choses contraires à la loi de Dieu, et tout ceci n'est pas compatible avec l'amour de Dieu. Quand bien même nous mépriserions quelqu'un parce qu'il n'aime pas assez Dieu, un frère parce qu'il n'aime pas assez Dieu, ce mépris ferait que nous-mêmes, nous n'aimerions plus Dieu en réalité, en vérité. Le bien commun, vous voyez mes très chers frères, le bien commun, c'est une notion très vraie, très véritable, mais qui est utilisée à tort et à travers aujourd'hui. Le bien commun ne peut être servi que pour l'amour de Dieu. Sinon, il n'y a qu'un conglomérat d'individus qui parlent tous du bien commun et dont le bien commun est de parler du bien commun. Mettez tous ces individus dans une véritable communauté, vous verrez qu'il n'y a pas de bien commun et que tous se haïssent les uns les autres et que personne, parce que personne n'aime Dieu. Le modèle de notre charité, nous disent les moralistes, c'est Dieu sur la croix. Dieu sur la croix pour notre salut. Dieu sur la croix pour notre salut, alors que nous étions encore ses ennemis. Il ne peut pas y avoir de plus grand modèle de charité que celle dont nous avons été aimés. Ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu, bien entendu, mais ça veut dire que nous ne devons pas nous dire « Non, à partir de là, cette charité me semble exiger de trop grands efforts ». Personne ne fera autant d'efforts que le Père a fait lorsqu'il a donné son Fils. Personne ne fera autant d'efforts que le Fils a fait lorsqu'il a donné sa vie volontairement sur la croix pour acheter la nôtre. Alors mes très chers frères, regardons à la croix, regardons le crucifix, et voyons-y le modèle, le patron de notre charité. La perfection de la charité, dit Saint Jean, c'est de mourir pour ses frères. Mourir pour son frère, ça veut dire littéralement donner sa vie, ça veut dire aussi supporter un côté insupportable, supporter des antipathies, c'est ça aussi mourir. Des fois, on voudrait plutôt être tué par quelqu'un plutôt que de supporter son caractère antipathique. Eh bien, sous un certain rapport, mourir de cette façon-là pour vos frères, mes très chers frères. Donner sa vie, c'est vivre en société avec eux sans chercher à les dominer. N'aimons pas, mes bien-aimés, mes petits-enfants, dit Saint Jean, n'aimons pas en paroles ou des lèvres, mais par des actes et des vérités. Les conférences, les sessions, les universités d'été, et toutes ces choses-là sont vaines et stériles si le fondement de notre existence n'est pas la crainte et l'amour du saint nom de Dieu, mes très chers frères. Ce n'est que sur ce fondement-là que s'élève la cité catholique, ce n'est que sur ce fondement-là que nous pourrons être, que s'élève l'œuvre de notre salut, ce n'est que sur ce fondement-là que tous, les uns avec les autres, unis les uns aux autres, comme les pierres d'un même édifice, nous élèverons à Dieu le temple, un temple à sa gloire. Mes très chers frères, que Dieu nous donne la crainte et l'amour de son nom, sans lesquels il n'y a pas de soumission à la volonté de Dieu, il n'y a qu'amour propre, concupiscence, damnation. Que Dieu nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.